À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Cameroun, quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur foyer dans les régions anglophones du pays suite aux violences liées au mouvement séparatiste, a indiqué l'ONU ce mardi dans un communiqué de son bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA. C'est la première fois qu'une estimation du nombre des déplacés est effectuée depuis le début de la crise fin 2016, et ce en raison d'un accès difficile aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les deux régions anglophones du pays en proie à cette profonde crise sociopolitique. Les séparatistes sont accusés de multiples enlèvements de fonctionnaires et autres Camerounais francophones, tandis que l'armée est taxée d'exactions et de brûler des habitations. « Nous ne brûlons que les maisons où on découvre des armes », a déclaré fin avril à l'AFP, l'armée, qui réfute les accusations d'exaction. Élection RDC, le président congolais Joseph Kabila a nommé un de ses proches juge à la Cour constitutionnelle chargé de trancher les litiges de la présidentielle du 23 décembre dans le pays, un scrutin auquel il ne peut pas se représenter. Ce juriste, Norbert Nkolo Kilombo, est nommé en même temps que le magistrat Jean Ubulupungu et François Bokoma Ruipa, un député du parti présidentiel. Le juge Nkolo a été désigné par M. Kabila lui-même, alors que M. Bokoma et Ubulu ont été mandatés respectivement par le Parlement et la magistrature congolaise. Les trois nouveaux juges comblent le vide créé par la démission surprise du 9 avril de deux juges constitutionnels et le décès d'un autre deux jours auparavant. Au Burundi, fin de la campagne pour le changement constitutionnel. Le CNDD-FDD parti présidentiel l'a terminé au cercle hippique de Bujumbura. L'uprona du premier vice-président de la République, Gaston Sidimo, à Kamenge, un quartier du nord de la capitale, et le FNL d'Agathon Rwasa à Gitega, dans le centre du pays. Le vote référendaire est prévu jeudi. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le parti présidentiel, à la tête duquel le secrétaire général Évariste Ndayishimiye, a terminé sa campagne au cercle de Bujumbura, une foule nombreuse et militante dans leur tenue de l'aigle battait campagne pour le oui, de même que les sympathisants du parti de l'indépendance Uprona, qui s'était déplacé vers le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura, derrière le premier vice-président Gaston Sindimo. Ces deux formations politiques vantent les mérites du changement de la constitution qui avait été adopté en 2005 après des années de négociations. Agathon Rwasa, quant à lui, était au centre du Burundi, dans la province de Gitega, où ses sympathisants avaient répondu pour le non de la révision constitutionnelle. Pour le parti Front National de Libération, qui ne sera plus une coalition d'indépendants après l'adoption de la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle enterre définitivement les accords de paix et de réconciliation d'Arusha signés en 2000. Rappelons que plus de 26 personnes ont été tuées par un groupe armé vendredi dernier et 7 personnes blessées selon le ministre de la Sécurité publique, Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Congo-Brazzaville, 17 des 20 activistes du mouvement citoyen Le Ras-le-Bol, retenus par les autorités, ont recouvré la liberté lundi à Pointe-Noire après avoir passé une semaine dans les locaux de la police. Les autorités les avaient accusés de troubler l'ordre public, alors que la société civile sur place parle de simples démarches citoyennes. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Les 17 activistes ont été libérés en présence de leurs parents. Les tractations ont duré toute la journée de lundi avant que le groupe de jeunes ne quitte les locaux de la DDST vers 15h en heure locale. Ils ont été libérés à moitié habillés avec une coiffure bizarre, a constaté Georges Nguila, le responsable de l'OCDH à Pointe-Noire. Le 7 mai dernier, 20 jeunes membres du mouvement Le Ras-le-Bol ont été arrêtés dans la ville pétrolière alors qu'ils tentaient de déposer une requête auprès du parquet pour dénoncer la détention des opposants dans les maisons d'arrêt. Selon Georges Nguila, qui a facilité ces libérations, les jeunes n'ont commis aucune infraction assimilée à trouble à l'ordre public. Mais trois autres activistes, tous membres du bureau du Ras-le-Bol à Pointe-Noire, n'ont pas été libérés. Ils pourraient être présentés devant le procureur de la République. Il s'agit de Franck Badiata, Julfa Banga et de Van Kibamba. La semaine dernière, la police a également arrêté à Brazzaville le coordonnateur national de ce mouvement, Franck Njila Malembe, et deux de ses compagnons. Ils sont toujours en détention à la maison d'arrêt. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Sénégal, le procureur de la République a requis de lourdes peines dans le procès des djihadistes présumés. Jugés devant la chambre criminelle spéciale de Dakar, les accusés risquent des peines de prison allant de 5 ans à la perpétuité. L'imam Alioune Daho et ses 31 co-accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités terroristes en bande organisée, acte de terrorisme par menace, complot et apologie du terrorisme. La plupart des prévenus sont en détention préventive depuis environ 2 ans. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Dans son réquisitoire, le procureur a commencé par dire que la lutte contre le terrorisme constitue l'un des défis majeurs du 21e siècle. Il s'est dit convaincu de la culpabilité des accusés. À ce titre, il a requis 30 ans de prison contre l'imam Daho pour les délits d'apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux, détention d'armes et de munitions. Le procureur a requis la prison à perpétuité contre Makhtar Diohane, accusé d'avoir reçu des financements venant d'Aboubakar Shekau, chef de Boko Haram. Cette même peine a été requise contre une dizaine d'autres accusés parmi lesquels les jeunes qui étaient allés combattre auprès des djihadistes. Pour le procureur, techniquement et théoriquement, l'entreprise terroriste s'est avérée, aussi bien pour ceux qui ont été au Nigeria dans le fief de Boko Haram que pour ceux qui ont été au nord du Mali avec ACMI. 15 ans de travaux forcés ont aussi été requis contre Koumba Niang, seule femme à risquer une peine de prison dans ce procès. En outre, le procureur a demandé la relaxe pure et simple pour 8 des prévenus. Les plaidoiries de la défense sont prévues à partir de ce jeudi 17 mai. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Proche-Orient maintenant, Israéliens et Palestiniens se préparent à de nouveaux affrontements ce mardi au lendemain de la journée la plus meurtrière de leur conflit depuis 4 ans, avec la mort de près de 60 Palestiniens sous les balles israéliennes. Les Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus et ceux de Cisjordanie occupés commémorent la Nakba, la catastrophe qu'a représentée à leurs yeux la création de l'État d'Israël en 1948 et l'exode de centaines de milliers d'entre eux. La communauté internationale continue d'exprimer son inquiétude devant le risque d'une escalade dans la région actuellement sous forte tension. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les adversaires d'Israël ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme ont de nouveau condamné l'État hébreu pour usage disproportionné de la force, alors qu'Israël répète ne tirer à balles réelles qu'en dernier recours. Les ONG Amnesty International et Human Rights Watch ont qualifié ces tirs à balles réelles d'injustifiés, la première fustigeant une violation abjecte des droits de l'homme et des crimes de guerre. La Turquie a accusé Israël de terrorisme d'État et de génocide, estimant que les États-Unis partageaient la responsabilité du massacre à Gaza. Ankara, tout comme l'Afrique du Sud, a rappelé son ambassadeur en Israël. L'Iran a dénoncé un jour de grande honte, évoquant un massacre de sang-froid à Gaza, pendant que les États-Unis, je cite, célébraient le transfert de l'ambassade illégale. Fin de citation. L'Arabie Saoudite a condamné les tirs israéliens sur des Palestiniens, mais n'a pas mentionné l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem. Le président français Emmanuel Macron a condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants palestiniens à Gaza et réaffirmé la désapprobation de la France à l'encontre de la décision américaine d'ouvrir une ambassade à Jérusalem. Il a souligné que le statut de la ville ne pourrait être déterminé qu'entre les parties dans un cadre négocié sous l'égide de la communauté internationale. L'Union européenne et Londres ont appelé à la retenue. Le Koweït a demandé une réunion en urgence mardi du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est dit particulièrement inquiet. Pour leur part, les États-Unis ont bloqué lundi l'adoption d'un communiqué du Conseil de sécurité qui entendait exprimer son indignation et sa tristesse face à la mort de civils palestiniens exerçant leur droit à manifester pacifiquement. La Maison-Blanche a imputé au Hamas, au pouvoir à Gaza, l'entière responsabilité de la mort des Palestiniens près de la barrière de sécurité. Israël, tout comme les États-Unis, réfute le caractère proclamé pacifiste de la mobilisation à Gaza et dit qu'elle sert de couverture aux tentatives du Hamas de s'infiltrer en Israël. La Ligue arabe doit se réunir en urgence mercredi.
Dossier nucléaire iranien. Pour terminer, le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif a poursuivi ce mardi à Bruxelles, 3e étape d'une tournée dans les pays signataires de l'accord sur le nucléaire iranien, son offensive pour tenter de sauver le texte après le retrait et le rétablissement des sanctions économiques par les États-Unis. Merci de votre attention.